Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Mais commandant, êtes-vous entré? Puisque la porte était fermée, il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission des savoir-faire français. Et oui, on va parler nougat, on va parler miel dans cette émission. Et quel plaisir justement de commencer avec cette voix si singulière de Brigitte Fontaine. Alors tout à l'heure, je vous ferai découvrir une entrepreneuse passionnée d'abeilles depuis maintenant bientôt 10 ans. Elle a créé son entreprise qui s'est imposée dans la cosmétique avec des produits bien-être et cosmétiques issus de la ruche. Leur force, vous le verrez tout à l'heure, la vente à domicile. Mais tout de suite, je vous emmène à Alloche, en Provence, découvrir un entrepreneur artisanal qui perpétue un savoir-faire familial depuis 1937. Allez, c'est parti pour une émission 100% miel.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en ligne avec Sébastien Passaggio, nougatier confiseur. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nathalie.
Donc vous êtes bien, c'est ça, à Alloche, en Provence, hein?
Oui, tout à fait. On est au sud, entre Marseille et Aubagne.
Alors vous, c'est marrant, parce que cette histoire avec le nougat, les chics, vous êtes tombé dedans très tôt, c'est-à-dire que vous aviez fait une promesse à votre grand-mère que cette tradition perdurerait. Et donc, oui, vous avez commencé à fabriquer des nougats, des chics et des sucemiels d'Alloche avec votre femme Marie-Laetitia.
Oui, tout à fait. On a commencé ça en 2006. On a repris le flambeau familial qui était effectivement depuis les années 30, la fin des années 30. Donc c'est une passion. Effectivement, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit et c'est vrai que je ne voyais pas autrement que de reprendre le flambeau.
Ça n'a pas été tout de suite le choix d'aller vers l'entreprise familiale ou dès le départ vous êtes lancé dans le métier de confiseur nougatier?
Non, ça n'a pas été le choix tout de suite. C'est vrai que mon grand-père est décédé subitement et il est venu naturellement que je reprenne l'activité directement pour que ma grand-mère continue son commerce au village.
Oui, parce que vous faisiez quoi justement avant de vous lancer dans ce métier de confiseur?
Avant, mais complètement différent. J'étais technicien en mécanique, donc c'est vrai que c'est un domaine complètement différent. Mais étant bercé depuis tout petit dedans, c'est vrai que ça a été naturellement que je me suis dirigé vers ça.
En fait, ça a été une évidence quoi, pour vous de reprendre cette fabrication de nougat. Et pour faire un bon nougat, Sébastien, quels sont les ingrédients principaux?
Il faut du très très bon miel de lavande, c'est essentiel. Et puis du miel toute fleur pour le nougat noir et du miel de lavande pour le nougat blanc. C'est vraiment essentiel. Et puis surtout pas d'additifs, pas de conservateurs parce que le miel est un conservateur naturel. Donc c'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit. Et la nature fait bien les choses, il faut l'utiliser.
Mais alors ça c'est intéressant parce que vous l'avez dit, il y a deux types de nougat, il y a le nougat noir, le nougat blanc. Alors à quoi est due la différence?
Alors le nougat noir c'est un caramel de miel dans lequel on fait torréfier les amandes directement. En fait elles sont cuites avec le caramel directement sur feu vif. Et alors que le nougat blanc c'est un mélange de miel de lavande, blanc d'œuf et c'est cuit pendant... Pendant 3, 4 heures, 5 heures, ça dépend du temps de l'hygrométrie. Ça peut être très long comme très court. Et puis les amandes, par contre, sont grillées à part et incorporées à la fin dans la préparation.
Alors là, vous l'avez bien dit, amandes, hein, parce que souvent dans le commerce, quand on trompe sur des mauvais nougats, c'est des cacahuètes. Mais la vraie recette, c'est des bonnes amandes. On est d'accord, Sébastien?
Tout à fait. Des bonnes amandes de Provence ou du bassin méditerranéen. Et ça fait la différence, oui, tout à fait.
Mais ça fait, et on redécouvre complètement le goût du nougat, c'est-à-dire que même au niveau de cette pâte hein, qui est réalisée, elle est moelleuse, quoi. Quand on mange un vrai nougat, quand on est vraiment dans la tradition, la recette traditionnelle.
Oui, tout à fait. C'est vrai que malheureusement, on a beaucoup d'industriels qui ont sali un peu notre image et le fait de le travailler authentiquement, c'est complètement différent. On retrouve la texture plus la texture du miel qui est naturelle, alors ouais, que les industriels en mettent très peu dedans. Et c'est vrai qu'on a plus un goût sucré que mielleux, quoi.
Bah Sébastien, voyez, moi, je suis un exemple parfait pour ça. J'ai jamais aimé le nougat parce que j'ai commencé le nougat par le nougat industriel. Et quand j'ai redécouvert le vrai nougat fabriqué de façon artisanale avec les vraies recettes, les amandes et cette pâte qui est à la fois dure en étant moelleuse, oh, mais c'est un pur bonheur. Donc, c'est vrai qu'il faut défendre ces produits artisanaux hein, quand ils sont faits dans les règles de l'art. Et l'été, j'imagine que c'est aussi un moment important pour vous. Hein.
Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. C'est surtout, vous allez en parler, je pense, après. Les abeilles, c'est très, très important. Donc là, on est dans une phase assez, assez compliquée en ce moment. Et
avec le taux de mortalité des abeilles, c'est ça qui ne cesse d'augmenter.
Oui, taux de mortalité. Après, il y a le réchauffement climatique qui est pour beaucoup aussi. Et malheureusement, si on n'a pas de bon miel, on n'a pas de bon nougat. Et effectivement, c'est très important. C'est une période importante.
Oui, c'est importante pour les abeilles. Et vous, pendant l'été, est-ce que... Parce que finalement, vous avez deux points de vente. Enfin, vous avez faites des miels, des nougats pardon, pour des grands hôtels, mais vous faites également des marchés, des foires, des salons. Hein. Faut vraiment faire connaître en fait, le produit.
Oui, tout à fait. Ben, nous, on a commencé, si vous voulez, par les salons, les foires, les marchés. C'est vrai que ça a été un choix au début pour une question de coût, pour une question de coût fixe. On n'a pas de suite réouvert la boutique familiale. Et c'est vrai que ces foires et marchés l'été, c'est très très important pour nous. Ça permet aux touristes de faire découvrir notre tradition, notre passion. Et on n'est pas très loin de la mer, donc c'est vraiment très agréable de faire des événements sur Marseille ou les alentours. Voilà.
Et parmi c'est justement faire découvrir, vous le disiez, hein, vos produits traditionnels, il y a le célèbre suce-miel d'Aloche.
Oui, tout
alors,
à fait.
Pourquoi
tout à fait.
Donner des sucettes à ces enfants bourrés de sucre alors qu'on pourrait juste tout simplement sucer du bon miel? Alors, d'où vient ce suce-miel d'Aloche?
Le suce-miel, c'est une vieille tradition du village. C'est une sucette artisanale qui est travaillée avec plusieurs phases de manutention qui sont propres à chacun. Et effectivement, on est un des derniers à les fabriquer. Et tout est fait à la main chez nous, tout est plié. Ma petite femme qui s'occupe, ses petites mains qui s'occupent de les plier.
Ah, il faut des mains délicates pour ça, Sébastien.
Ah oui, il faut, c'est essentiel. Et donc c'est vrai que c'est une sucette qui n'a pas de bâtonnet, qui est mise entre deux papiers alimentaires. Et ça permet d'éviter tout conservateur ou autre, c'est que des bonnes choses à l'intérieur. Et surtout, voilà, on en revient toujours au même. La matière première est le miel, donc il faut du bon miel pour avoir de bons suce-miel.
Et comme il n'y a pas de bâtonnet, en plus, il n'y a pas de déchets derrière, parce que tout se suce. Et après, il ne reste plus rien, si ce n'est le petit papier alimentaire qui l'a protégé.
Exactement, le papier qui lui-même est recyclable, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et là, on tend vers justement de l'emballage qui est renouvelable pour le suce-miel aussi. Donc, on ne l'avait pas pour l'instant, mais c'est vrai que on l'avait uniquement pour les nougats et le suce-miel va être entièrement renouvelable, aussi bien dans le papier que dans l'emballage.
Ben voilà, non seulement on fait des produits de qualité, on respecte la tradition, on la perpétue et en plus, on est éco-responsable. Que demande le peuple, Sébastien?
C'est ça.
Sébastien, merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes nougatier confiseur au royaume des abeilles. Et désormais, vous avez une boutique physique, hein. C'est ça, vous avez rouvert la boutique.
Oui, tout à fait. On
a une boutique
rue Pierre Curie. Allô, c'est ça, tout à fait.
Eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche et merci pour votre témoignage.
Merci Nathalie. Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir Sébastien. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après pour continuer cette émission 100% miel. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va continuer notre voyage dans le miel. Et oui, tout est bon dans le miel. Vous allez le voir tout de suite avec Élise Hernaez, fondatrice de Secrets de Miel, qui nous raconte tout de suite sa passion des abeilles et surtout tous ses produits de beauté qu'elle peut créer avec uniquement les matières premières de la ruche.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour Élise.
Bonjour Nathalie.
Alors vous aimez le dire, Vous êtes né dans un pot de miel, en étant la cinquième génération d'une famille d'apiculteurs.
Exactement.
Donc c'est vrai que vous avez toujours été dans cet univers-là. Mais alors, comment vous est venue l'idée, finalement, de créer des cosmétiques à partir justement de ces ingrédients de la ruche, hein, de tout ce qui fait la richesse d'une ruche, plutôt finalement de continuer dans ce métier d'apiculteur avec votre famille?
Alors, donc moi, c'est vrai que j'ai grandi dans un domaine apicole. C'est vraiment ma passion depuis toujours. Et j'étais tellement convaincue moi-même par les bienfaits des produits de la ruche que j'en parlais à tout le monde tout le temps. Et j'avais envie de faire découvrir à tout le monde tout ce qu'on pouvait faire finalement grâce au miel et aux autres produits de la ruche. J'adore les produits de beauté, j'adore prendre soin de moi et donc je me suis dit je vais faire découvrir ces bienfaits en créant une gamme de cosmétiques autour du miel et des produits de la ruche. Et en plus, hein, tout mon concept, c'était in and out, parce que en plus des cosmétiques, prendre soin de sa peau, ça commence à l'intérieur aussi, tout simplement en mangeant des produits de la ruche qui sont très bons pour l'organisme et qui permettent d'avoir une plus belle peau, de beaux cheveux alliés à des cosmétiques.
Alors justement, quels sont ces trésors que l'on trouve dans une ruche? Le miel, tout le monde connaît. Le miel, ça sert à quoi dans la cosmétique? Quels sont justement les bienfaits du miel? Mais également, quels sont ces autres produits? Je pense notamment à la propolis, j'imagine qu'il y en a d'autres. Expliquez-nous justement ce que vous avez pu justement recueillir dans la ruche.
Oui, donc dans la ruche, il y a cinq trésors. Il y a le miel, tout d'abord, il y a aussi la propolis, le pollen, la gelée royale et enfin la cire. Et en fait, ce qui est magique, c'est que ces cinq actifs agissent vraiment en synergie pour prendre soin de soi. Et donc, moi, avec Secret des Miels, je voulais vraiment montrer qu'on pouvait prendre soin de soi et de toute sa famille grâce aux abeilles. Donc le miel, tout d'abord, le miel, il va avoir un pouvoir hydratant extraordinaire, puisqu'il est composé donc de bons sucres, de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, et en fait, il va maintenir le taux d'hydratation naturellement présent dans la peau. Donc, en s'appliquant du miel sur la peau, on va booster l'hydratation et le renouvellement cellulaire. Et donc après, chaque miel tire ses bienfaits de la fleur dont il est issu. Donc tous les miels sont naturellement hydratants, mais si on choisit un miel d'acacia ou de citronnier, par exemple, il va avoir une action nourrissante encore plus forte. Si on choisit un miel de thym, il va, en plus d'hydrater, il va purifier. Donc chaque miel a un peu
Donc pour vous, c'est important le choix du miel dès le départ quand vous créez vos cosmétiques?
Exactement, oui, tous les produits sont réfléchis autour d'un miel en particulier en fonction du besoin, de la promesse de la crème ou du shampoing
et la propolis, alors qu'est-ce que ça permet d'obtenir?
Donc la propolis, ça va être en fait c'est une résine que les abeilles vont récupérer sur les arbres pour protéger la ruche contre les microbes et les bactéries. Donc, par exemple, pour des peaux à problème, pour des peaux acnéiques, par exemple, on va utiliser du miel de thym allié avec de la propolis, qui est cette résine extraordinaire que les abeilles vont enrichir, hein, en plus de la récolter sur les arbres. Et donc, ça va, l'alliance des deux, et ça va équilibrer, purifier. Et en plus aider à la cicatrisation des peaux à problème, parce que vous savez que le miel, notamment la propolis aussi, mais encore plus le miel, est utilisé en milieu hospitalier pour cicatriser des plaies.
Après, il y a effectivement la gelée royale, le pollen, mais comment vous avez découvert tout ça? Parce que justement, vous n'y connaissiez rien à la cosmétique ni aux compléments alimentaires. Comment vous avez fait? Vous êtes parti, vous avez suivi des cours, vous êtes allé voir un laboratoire, vous êtes allé tester ces produits, vous êtes renseigné?
Oui, alors bon, moi je suis née là-dedans, donc tous les bienfaits des produits de la ruche, c'est mes grands-parents avec qui je passais énormément de temps qui m'ont appris tout ça. En fait, c'est des secrets de famille qui se transmettent de génération en génération chez nous. Et donc ensuite, j'ai fait appel à des laboratoires cosmétiques et de compléments alimentaires pour utiliser ces produits de la ruche dans des recettes inspirées de recettes de grand-mère, puisque finalement nos produits sont des soins naturels qui allient les produits de la ruche avec des extraits de plantes, des eaux florales. On est vraiment sur du remède de grand-mère pour la beauté et le bien-être. Mais j'ai fait appel évidemment à des laboratoires qui ont des services de recherche et développement. Enfin, il y a toute une recherche autour du développement de chaque produit cosmétique ou complément alimentaire.
Et vous avez choisi la vente à domicile. Expliquez-nous pourquoi. C'est un produit qui mérite d'être expliqué, testé pour être adopté?
Oui, alors moi depuis le début, je voulais vraiment partager ma passion pour les abeilles, pour leur trésor, et je me suis dit la meilleure façon de le faire finalement, c'est d'en parler autour de moi, et donc la vente à domicile m'est apparue vraiment comme une évidence, parce que je me suis dit, moi je suis passionnée, j'ai mon histoire à raconter, j'adore partager mes secrets de beauté et de bien-être, donc j'ai commencé moi-même en fait en partageant cette passion, en faisant découvrir mes produits, et puis aujourd'hui on est plus de 2000 conseillères puisque en faisant découvrir mes produits, j'ai donné envie à des personnes qui les adoraient aussi de démarrer avec moi, et donc on les forme aux soins, aux bienfaits de chaque produit de la ruche. Je les emmène aussi dans les ruchers pour qu'elles voient comment on récolte du miel, comment on récolte de la gelée royale. Et donc maintenant, nous toutes, avec les conseillères, on fait découvrir secrets de miel lors de soirées à domicile. Et c'est très convivial.
Finalement, vous avez créé votre propre ruche.
Exactement. C'est une vraie ruche. Et donc on recherche chaque mois des nouvelles conseillères, parce que plus il y a d'abeilles dans la ruche, plus on fait connaître les bienfaits des produits de la ruche, plus on fait connaître l'importance des abeilles aussi, parce que c'est vrai que sans abeilles c'est un vrai problème pour notre planète, donc c'est important de faire connaître tous les bienfaits des produits de la ruche et l'importance des abeilles.
Et vous continuez finalement le combat que menait votre grand-père contre les pesticides et leurs impacts sur la mortalité des abeilles.
Exactement, oui. C'est vrai que mon grand-père s'est battu toute sa vie pour la défense des abeilles, et j'avais vraiment envie de continuer à porter ce message pour faire connaître
la défense des abeilles, parce qu'effectivement le taux de mortalité ne cesse d'augmenter, on était avec un apiculteur qui nous disait un nougatier qui nous disait sans bon miel on ne peut pas avoir du bon nougat, et vous c'est pareil, et sans abeilles on ne peut pas vivre, donc c'est important effectivement de valoriser leur richesse, et surtout d'inciter justement la population, le plus grand nombre en tout cas, à s'intéresser aux abeilles.
Oui, tout à fait. Et nous, d'ailleurs, j'ai développé toute une gamme autour de la famille pour aussi prendre soin des petits, pour booster leur défense, etc. Et je me rends compte à quel point aussi les enfants sont porteurs de ce message, parce qu'en fait, quand on explique aux enfants l'importance des abeilles, ils expliquent aussi à leurs parents. Et donc, on a beaucoup de conseillères qui font des animations dans les écoles aussi pour faire connaître le miel et ses secrets.
C'est une très, très bonne idée. Merci en tout cas, Élise Ernaez. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Secrets de Miel. Merci pour votre témoignage.
Merci à vous.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter, pour la suite de la visite de la lustrerie Mathieu à Gargas dans le Luberon.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio CSA La France avec Thibaut, le French Trotter.
Et oui Nathalie, je suis dans cet atelier installé dans une ancienne usine d'ocre, toujours en compagnie de Régis Mathieu, son directeur, qui nous parle des lustres majestueux suspendus au-dessus de nous.
Alors ici vous avez 5 siècles d'histoire de lustres qui est assez intéressant. Vous avez ce lustre de Jacques-Émile Roulemann qui est de 1930.
D'accord.
Vous avez une méduse qui est une de mes créations contemporaines. Et vous avez ces lanternes qui sont très connues par les Parisiens, puisque ce sont les lanternes qui sont sur la place de la Concorde.
Effectivement, on les reconnaît. Et là, nous sommes sous un magnifique lustre. Comment pourrait-on le décrire?
Alors, c'est le lustre cage, le lustre typique français du XVIIIe siècle.
Monumental.
Oui, il est assez grand. Il doit faire 4 mètres de haut et 2,50 mètres de diamètre. C'est vraiment le lustre classique français qui illumine tous les grands salons des ministères, notamment de l'hôtel de la Marine.
Quels sont les savoir-faire ici? Donc, on parlait des compagnons, quels sont leurs savoir-faire?
Alors le savoir-faire le plus répandu à la lustrerie, c'est le travail du métal. Donc nous avons ici ciseleurs, monteurs, doreurs, tourneurs, et tous travaillent sur le métal. Et puis après, il faut prendre ces pièces de métal et les transformer en lustre. Donc il y a tout un travail qui est fait entre l'électricité, l'éclairage, le rétroéclairage, pour que le lustre soit au plus juste de ce qu'il représentait à l'époque, c'est-à-dire cette lumière de bougie qu'aujourd'hui nous réalisons grâce à une ampoule LED dont nous avons le brevet.
D'accord, donc la version moderne de la bougie.
La version moderne de la flamme, tout à fait, qui éclaire comme une flamme, qui est en LED et qui éclaire la Galerie des Glaces à Versailles, mais aussi quasiment tous les ministères, l'Élysée, évidemment l'Hôtel de la Marine.
Le métal de prédilection, c'est le bronze ?
Oui, nous sommes bronziers, c'est le nom de notre métier, bronzier d'art. Donc le métal de prédilection, c'est le bronze. Et le cristal que vous voyez sur la plupart des lustres ici, en fait, ce n'est pas du cristal artificiel, mais c'est du quartz, qui s'appelait à l'époque du cristal de roche.
On continue la visite ?
Donc là, c'est l'atelier de monture en bronze. Et là, nous sommes en train de réaliser un lustre contemporain qui est en fait un arbre qui aurait poussé chez vous. Donc vous avez une partie qui sort du sol, comme un tronc, qui monte contre le mur. Et puis, comme ça prend la place d'un lustre, évidemment, ça redescend et ça s'élargit. Et toutes ces branches deviennent des bras de lustre sur lesquels sont suspendues des fleurs en cristal de roche qui remplacent les pampilles. Et puis des lumières qui sont un petit peu cachées partout. Et on est à la fois dans la magie du baroque et du naturalisme, mais à la fois dans une installation très contemporaine. Parce que si je fais bien mon travail, vous avez vraiment la sensation que le lustre a vraiment poussé à l'intérieur de chez vous en passant à travers les murs. On monte ?
On monte.
Alors là, vous êtes dans la partie vraiment atelier avec la ciselure, le polissage, les soudures. Donc c'est là que de la matière brute, nous en faisons ces pièces finement ciselées. C'est le même travail que l'orfèvrerie. Et vous pouvez voir, alors vos auditeurs non malheureusement.
Décrivez-nous un petit peu ces pièces.
Imaginez ces pièces où quand on regarde de près, chaque pièce de lustre est sculptée. Là, vous avez un visage d'égyptienne. Qui est vraiment...
C'est vraiment sculpté de manière très très fine.
Voilà. C'est accroché tout en haut d'un lustre. Mmh. Et en fait, c'est là qu'on comprend que ces lustres étaient des vraies pièces d'orfèvrerie. Mmh. D'ailleurs, c'est la même formation que l'orfèvrerie et la joaillerie. On est très fiers de montrer au public ce savoir-faire.
Est-ce que ce que j'ai vu, les ateliers sont accessibles également quand vous êtes ouvert?
Alors, quand on est ouvert, c'est accessible. Il y a des grandes baies vitrées, on voit les compagnons travailler. Et l'idée, c'est de très vite laisser ouvert quand on est fermé pour une très jolie visite du parc où on découvrira à la fois l'archéologie industrielle des usines d'ocre et à la fois notre travail, les ateliers, ainsi que les pièces du musée qui seront là et dont certaines se resteront éclairées pour que vous puissiez les regarder. Et nous sommes en train de mettre en place, alors il faudra être gentil avec moi au début parce que ce n'est pas notre spécialité, mais on le fait avec beaucoup de gentillesse et de générosité, toute une visite autonome dans laquelle, avec son téléphone portable et QR codes, vous pourrez à la fois comprendre l'histoire de l'ocre, l'histoire du bâtiment, mais à la fois comprendre l'histoire des lustres.
Je pense que les auditeurs auront envie de venir. Merci beaucoup Régis pour cette visite complète.
Merci à vous d'être venu.
Fin de ce reportage Nathalie, je vous retrouve la semaine prochaine.
Voici vraiment un lieu pensé et conçu pour la visite. On vous invite vraiment à y faire un tour si vous passez par le Luberon, et tous les renseignements, l'accès, les horaires des visites sont sur leur site, hein, mathieulustrerie.com. Merci Thibaut, à très vite.
Sud Radio Cessa la France, avec Thibaut le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que vous passez un bel été, qu'on vous a donné envie de manger du bon nougat, du vrai nougat, et d'utiliser des cosmétiques qui mettent en valeur ces abeilles qu'il faut absolument protéger. Voilà, c'était une émission tout en miel qu'on souhaitait vous proposer pour cet été. Allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.